mean, where's my DJ?
What do you mean a DJ? You know what a DJ is. Where's your DJ at?
I don't need a fucking DJ. That's too much money out of my goddamn pockets. That means I'm gonna be broke. I'm not gonna have no goddamn money for anything. Fuck that.
Yo, you need to get yourself a DJ. The DJ's bad for it. Yo, what's up with that?
Yo, fuck that. What the hell I need that shit for? I got me, myself, and my rhymes.
A young scholar once told me, rap is the business and hip-hop is the culture, or cultivation of an oppressed expression for mind stimulation. Yet the elements or elementary degrees vary from clothes to lyrical flows and backspins to cutting and scratching, or even just relaxing to a live, take you on a joyride type of vibe, which can be created through our art forms, expressed through our songs, while devoted to keeping hip-hop strong. But if hip-hop is indeed a culture, our culture, then why is our foundation slowly breaking, breaking, and drifting down a bottomless abyss? We have allowed our foundation to be manipulated, raped, and given back to us in a form we cannot quite call our own. Without an equilibrium, our four main ingredients, MCing, DJing, b-boying, graphing, have been lost yet found within the quote-unquote rap shuffle. On a twofold card, the MC and the DJ walked hand in hand across their hip-hop land. But now the MC walks with an electronic device used to slate the demise of the turntablist. The turntablist is the guide or conductor of an orchestration, using their turntables as the instruments. They incorporate sound bits to make my head split from the symphonic delivery, a musical entity that lives infinitely. Turntablists that have created turbulence within hip-hop circumference have been the X-Men. Rock Raider, swift in his maneuvering, draws the crowd into his zone, takes me back away from home. I'm going back to Cali while he spins the wax and manipulates the turntables to take us into his realm, where he annihilates all competition. Like Nas, it was written, the beat juggling precision. So now I'm gonna make it real funky for you with that laid back, mellow, my man type rhythm, which Rock Swift so delicately but forcefully illustrates the jazz fusion. Is Brooklyn in the house? Is splurged when this turntablist enters the arena. With quick hands and intricate beat patterns, totally clips, puts the flavor in our ears. Can't you hear? Mr. Sinister, the innovative, change the pace type melody, funky in its expression. SWAT routine keeps the crowd wanting.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est une émission radio qui s'appelle Regard d'ailleurs. Un regard d'ailleurs pour élargir son regard, sa vision du monde à travers des expériences de vie. Donc là, je suis chez vous, chez Alvaro. On est dans une petite rue derrière le Quai d'Argat à Varanasi, au deuxième étage. Et donc Alvaro, l'idée c'est de prendre ce temps pour découvrir un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené ici, en Inde, à Varanasi. Comme vous le dites, vous avez aujourd'hui un certain âge espagnol, d'origine espagnole mais francophone. Donc Alvaro, qu'est-ce qui s'est passé dans votre itinéraire de vie ?
J'ai étudié au lycée français à Madrid.
Donc lycée français à Madrid, et qu'est-ce qui fait que vous avez pris la route, les routes du monde, pour vous retrouver ici en Inde ?
Bon, à l'époque, pendant les années 70, il y avait, vous savez, les jeunes gens étaient très inquiets, non ? Il y avait une espèce de révolution intérieure, non ? Et alors, il y avait pas mal de gens qui venaient en Inde. Les hippies, en Europe, les hippies, c'est pas des hippies purs, disons, non ? Mais enfin, il y avait cette ambiance un peu, non ?
Oui, il y avait les chemins de Katmandou, c'est ça ? Tous les hippies partaient avec le Magic Bus depuis l'Europe pour relier Katmandou ?
Voilà, alors là, les gens venaient par terre. Moi, je suis venu en 81, dans les premiers voyages en avion bon marché. Je ne suis jamais venu par terre. J'ai cette... Regret, oui, j'aimerais être revenu par terre, j'ai pas eu l'occasion.
Mais c'était déjà pour fuir quelque chose, là on parle de mai 68, la libération des mœurs, cette envie de voyage, de découverte du monde, les chemins de Katmandou, donc vous êtes venu en 81, la première fois en Inde.
Oui, oui. Non, c'était pas pour fuir, j'étais, bon, j'avais une jeunesse un peu agitée, mais puis j'ai trouvé du travail à l'université de Madrid comme bibliothécaire, mais j'avais un désir d'aventure. J'étais plusieurs fois au Maroc. Le Maroc, c'était à côté de l'Espagne. Alors, puis on fumait du hashish, on le trouvait très facilement. Il y avait beaucoup de gens qui allaient au Maroc. Mais j'avais un grand désir d'aventure. Et puis j'avais quelques amis qui étaient venus en Inde. Et un jour, j'ai lu un livre d'Alexandra David Neal. Et j'ai eu l'envie de faire un grand voyage. Alors je suis venu, j'ai pris congé à mon travail et je suis venu ici pour 6 mois.
Parce que Alexandra David Neal a beaucoup écrit sur le Tibet aussi, hein, mais sur l'Inde aussi peut-être.
Un peu sur l'Inde, surtout sur le Tibet. Bon, mais c'était une grande voyageuse.
Ok, donc c'était cette envie d'aventure, ce désir d'ouverture sur le monde qui vous a fait monter dans cet avion, donc en 1981, pour arriver ici en Inde. Donc il y avait cette envie d'y rester ou juste de découvrir le pays. Quelle était l'intention en arrivant ici?
Je n'avais qu'une intention, c'était un peu découverte. Et je n'avais pas d'objet spirituel non plus à l'époque. C'était une Inde très différente de celle de maintenant. Il y avait la moitié de population que maintenant. c'est incroyable. Il était beaucoup moins développé. C'était un pays plus simple. C'était le socialisme de Nehru. Il y avait une espèce de pauvresse qui couvrait les minimums vitaux pour tout le monde. Mais c'était un pays très aimable aussi. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était un pays intemporel. Encore en Inde, on arrive à trouver des scènes comme ça, mais pas tellement comme avant, non? À Benares, il y avait des scènes, je dirais, mais on pourrait situer ça en n'importe quel millénaire de l'histoire.
Ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui dans les rues de Benares ou de Varanasi.
Benares, c'est un peu encore ça reste. Et je pensais que la véritable, l'histoire, c'est-à-dire l'humanité, la plupart du temps, elle vivait comme ici, pas comme à l'Occident, non? C'était c'était une société beaucoup plus artificielle. L'humanité, elle vivait tout le temps, elle a toujours vécu dans une espèce de, très simplement, si pas dans la pauvreté, un peu juste au-dessus de la pauvreté, et avec des relations plus humaines, avec la religion aussi, une vision plus sacrée de la vie. C'est ça que j'ai beaucoup aimé.
Donc ce saut dans le temps finalement, une sorte de retour en arrière où les choses sont plus simples en termes de liens humains et en termes de spiritualité.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut essayer de recréer une dimension visuelle quand on dit hors du temps? C'est vrai qu'il y a un côté très moyenâgeux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce que va voir le voyageur qui vit en Inde?
Bon, dans les années 90, pour commencer, il n'y avait presque pas de trafic motorisé. C'est déjà beaucoup. C'est au contraire que maintenant, vous savez, c'est un enfer de trafic. Non, à l'époque, il y avait très peu de voitures. Il y avait des bus, des camions, puis il y avait des rickshaws. La classe moyenne haute avait des scooters, et c'est tout. Il y avait beaucoup de rickshaws, beaucoup de bicyclettes. Donc ça marque beaucoup, non?
Ok, il y a plus de vaches dans les rues que de machines et que de moteurs.
Oui, c'est ça. Et puis il n'y avait pas du plastique, les vaches mangeaient les déchets. C'était très écologique, non? Puis l'invasion du plastique, ça a eu lieu devant mes yeux. L'invasion du plastique, puis l'invasion de la société de consommation, qui a commencé aux années 90. En 91, je crois, l'Inde avait été au bord de la faillite économique parce que c'était une autarcie. C'est-à-dire que l'Inde produisait tout pour le marché intérieur. Elle n'importait presque rien. Et alors, à cette époque, l'Inde a dû s'ouvrir à l'étranger. Et là, tout là, le capitalisme, la société de consommation a entré en masse, non? Avant, il n'y avait même pas la Coca-Cola. La Coca-Cola, Indira Gandhi l'a expulsée. Il y avait la Campa-Cola et le Thumbs Up.
Et vous, Alvaro, donc vous arrivez ici en Inde en 81. Qu'est-ce qui fait que vous choisissiez de rester en Inde toutes ces années?
Oh, j'ai pas choisi, ça tout le monde me l'a dit. L'histoire, c'est que quand je suis venu, à un moment donné, j'étais un peu déprimé par une histoire qui m'est arrivée, je ne vais pas la raconter maintenant. Et puis je suis arrivé à Benares. Et quand je suis arrivé à Benares, c'était comme une fenêtre qui s'ouvrait. J'étais fasciné par la ville, j'ai resté un mois dans la ville. Puis je suis retourné en Espagne, j'ai vendu des choses que j'avais achetées à l'époque. Le marché n'était pas saturé sur ces choses-là. Puis je suis revenu encore, puis je me suis réintégré dans mon travail. Mais quand je pouvais, je prenais des vacances sans salaire. Je venais ici 2 ou 3 mois et toujours je revenais à Benares. Et en 89, j'ai eu des problèmes en Espagne. J'ai eu des problèmes amoureux aussi.
Problèmes de cœur.
Alors j'ai dit, je vais partir en Inde pour 2 ans. À Benares pour continuer à apprendre le hindi parce que je l'étais déjà en train d'étudier. Alors je suis venu en 89, j'étudiais le hindi à l'université avec des professeurs particuliers. Mais quand le temps s'achevait, je ne voulais pas rentrer, reprendre ma vie antérieure. Non? Et alors les portes se sont ouvertes parce qu'à ce moment-là, c'était le début de l'aperture de l'Inde, de l'ouverture. Alors l'Inde acceptait que les étrangers forment des compagnies. À ce moment-là, en partnership. Alors avec un ami qui était libraire, On a fondé Indica Books, une compagnie de une librairie et une éditoriale.
Alors j'ai vu quelques exemplaires du livre en bas dans la librairie, là, dans le restaurant à côté. Donc ça parle beaucoup de spiritualité. Donc à quel moment la spiritualité est entrée dans votre vie? Est-ce qu'elle était déjà présente en Espagne ou est-ce que c'est en Inde qu'elle est arrivée?
En Espagne, elle était présente, mais en germe. Et ce germe s'est développé en Inde. D'abord, j'ai commencé par Ramana Maharshi. J'ai été plusieurs fois dans l'ashram de Ramana Maharshi.
Donc là, à Tiruvannamalai.
Oui, à Tiruvannamalai, qui était aussi très différent de commune comme il est maintenant. Et puis à partir de là, j'ai continué à m'intégrer un peu, non? Et puis après la librairie, je me suis marié. Et comment vous êtes marié? C'est la question que tout le monde me pose. Où est-ce que vous vous êtes rencontré?
Où est-ce que vous êtes?
Ce n'est pas facile de se rencontrer ici avec des filles, non? Je me suis marié dans la section de matrimonials de The Times of India, d'un journal. C'est-à-dire que c'était un mariage arrangé. Et puis.
Mais donc les mariages arrangés ne sont pas réservés qu'aux Indiens entre eux?
Pas celui qui veut. Il y a des mariages arrangés aujourd'hui maintenant en Occident, non?
Oui, via les agences, oui.
Il y a les agences, il y a divorcé avec deux fils qui veut se faire une relation sérieuse, non?
non, mais c'est ça, faut le remettre dans le contexte culturel. Hein. C'est vrai que nous, en Occident, quand on parle de mariage arrangé, alors qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du féminisme, hein, d'émancipation des femmes, ça paraît complètement incroyable. Alors qu'en fait, nous, dans nos sociétés, on passe notre temps à se déchirer, à divorcer, à changer de partenaire, à consommer la relation, un peu comme on s'est mis à consommer le plastique, hein, le stylo jetable, le rasoir jetable. Même dans la relation, on a tendance à consommer l'autre et changer régulièrement de partenaire.
Parce que les gens ne veulent pas prendre un compromis, on dit, non.
Faire de compromis.
Prendre une responsabilité, non? Alors qu'ici, les gens savent que si je me marie, c'est pour toujours. Peut-être qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Bon, ben alors on verra. Mais pour commencer, on sait que ça va être comme ça, non?
Donc on en revient à votre histoire. Donc vous arrivez ici à Alvaro en 81, vous y revenez régulièrement, hein, avec des retours en Espagne, mais l'envie de revenir à Varanasi. Vous vous mettez à apprendre l'hindi. Et donc pendant les premières années ici, il fallait trouver une manière de vivre. Et c'est comme ça que vous êtes devenu éditeur.
Oui, oui, voilà.
Donc éditeur de bouquins, donc en tant qu'éditeur, quels ont été les sujets que vous avez choisi de traiter et de publier?
Oui. Mon partenaire, il avait travaillé avec Motilal Banarsidas, qui était c'est la grande compagnie de l'indologie. Alors c'était sur des sujets d'indologie, de philosophie, de la tradition indienne. Donc on a suivi cette ligne, ce qui pour moi, ça a été très bien, parce que j'étais aussi intéressé par la culture et la philosophie de l'Inde.
Donc c'est aussi une manière pour vous de vous intégrer dans ce pays.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que normalement, les gens, comment est-ce qu'ils s'intègrent? Si par exemple un Français va vivre en Allemagne, comment est-ce qu'il s'intègre?
Par la langue.
Par la langue, par le travail, non? Et les étrangers qui viennent ici, la plus grande majorité ne parle pas la langue. Parce qu'en anglais, c'est un piège, parce qu'on se débrouille. On se débrouille, mais on ne va pas trop loin. Et on ne travaille pas, on n'a pas le droit de travailler. Même si on a le droit, les salaires sont très bas. Donc et puis la société indienne est très compliquée, très complexe. Ce n'est pas facile de s'intégrer.
Mais là, Alvaro, vous quittez une Europe en pleine croissance économique. Dans les années 80-90, le plein emploi, la croissance, le PIB, pour venir dans un pays qui encore à cette époque est très pauvre. Pourquoi avoir fait le choix de venir dans la pauvreté alors qu'on nourrit un rêve à l'occidental qui est le rêve du matériel et de la croissance?
Oui, ce rêve de la prospérité économique, je ne l'ai jamais eu. D'abord, c'était aussi un peu le background du mouvement des hippies, non? Qui est arrivé en Amérique, la société la plus prospère du monde, non? Et alors j'ai toujours aimé une vie simple, non?
Donc vous êtes un ancien hippie?
Je suis?
Un ancien hippie.
Un peu hippie entre guillemets. J'étais pas un pur hippie, mais il y avait une influence de toutes ces idées à l'époque, oui. En Inde, il y a un ancien... un proverbe, c'est pas un proverbe, comme un dicton, qui dit simple living, high thinking. C'est un courant qui de la société indienne aussi. Donc cette histoire était aussi présente en Inde, non? Avoir une vie simple, mais avec des pensées élevées, non? Et à l'Occident, c'est à l'envers. C'est une vie luxurieuse avec des petites pensées.
C'est vrai. Quand on arrive en Inde et qu'on s'intéresse à la spiritualité, comment est-ce qu'on fait pour comprendre quelque chose? Parce que moi, en tant que touriste, en étant là, je me sens complètement perdu face à la multiplication des dieux, des rites, des sectes, des gourous, oui, qu'on voit absolument partout. Enfin, il y a moyen de se perdre dans l'hindouisme et dans la spiritualité indienne.
Oui, oui, bon, ça prend du temps, bien sûr, de comprendre. Il y a une chose, en Europe, en Occident, il y a eu toujours une forme religieuse, non, qui était imposée, et ceux qui se déviaient de cette forme, on les tapait sur le...
Ils allaient en enfer.
Ils allaient en enfer si on ne les brûlait pas avant. Et ici, il y a une grande liberté de forme, c'est-à-dire il y a une vision de base. Il y a une divinité qui est sans forme, qui pénètre tout, qui est partout, mais elle peut se manifester de milliers de façons. D'où la grande quantité de dieux qui finalement sont la même divinité. La divinité sans forme, on ne peut pas avoir une relation avec elle. Parce que, donc on la représente, de même que l'islam dit on ne la représente pas du tout, pour ne pas se tromper, l'hindouisme dit on la représente de milliers de façons. Non, et toutes ces représentations ont un lien avec, c'est-à-dire c'est la forme que prend la divinité pour moi, non, pour les fidèles.
Et donc la divinité ici en Inde serait unique, parce que je pense à Brahma, Vishnu, Shiva, où j'avais l'impression qu'il y avait trois grands dieux principaux, et après plein d'avatars ou de sous-branches, maintenant il y a un dieu unique aussi.
Il y a un dieu unique et il y a un dieu plus qu'unique, spécialement dans l'Advaita Vedanta, le non-dualisme, parce que selon cette doctrine, il n'y a que l'absolu. Il n'y a rien d'autre que l'absolu. Donc nous sommes l'absolu. Ce qu'on voit ici, c'est l'absolu. On se trompe, on voit la multiplicité, mais la multiplicité est une apparence. Alors cette divinité, elle n'est pas même plus unique, parce que s'il y a un dieu, on doit avoir quelqu'un en face qui le voit, non? Mais lorsqu'il n'y a que ça, alors ce n'est même plus un. C'est-à-dire, dans le christianisme, dans l'islam, il y a Dieu, il y a les fidèles, non? Les fidèles ne reconnaissent qu'un dieu. Mais si dans le non-dualisme, c'est-à-dire s'il n'y a que Dieu, Qui est-ce que va dire que tu es Dieu, il n'y a qu'un Dieu? Parce qu'à ce moment-là, il y a seulement Dieu. Il n'y a pas d'individu. La non-dualité.
Quelques mots pour m'expliquer le concept de non-dualité? Est-ce qu'on pourrait définir ce concept?
Karacharya, c'est celui qui l'a un peu organisé. Il dit, la vérité, c'est Brahma. Brahman, c'est l'absolu. Le monde est une apparence. Et le jiva, l'individu, est Brahma. c'est pas facile de...
Bah donc nous sommes Dieu, quelque part. On possède en nous...
Pas comme personne individuelle, mais notre âme la plus profonde, quand nous nous réveillons le matin, la première impression qu'on a, qu'est-ce que c'est? Je suis. Voilà, c'est ça. On se rappelle, je suis Alvaro, je travaille ici, là c'est ma femme. Ça c'est une apparence, c'est un rôle qu'on joue.
Une sorte de masque, comme si on portait un masque dans nos vies.
Voilà, vous savez que persona, le mot personne vient de persona qui était le masque que les acteurs portaient au théâtre.
Et donc l'idée c'est de se libérer de tous nos masques pour juste être.
Voilà.
Radne kalpita masanam himachale snanam cha divyam varam
Alvaro, je reviens à votre parcours de vie. Donc vous créez cette entreprise d'édition. En 96, vous vous mariez donc avec une Indienne, rencontrée dans un journal, c'est ça, grâce au Times.
Voilà, moi je suis allé la voir, bien sûr.
Ouais. Et vous avez fait le choix de continuer à vivre ici, à Varanasi.
Ouais.
Pourquoi?
Parce que c'était ma ville. Je la sentais comme mienne.
Et le fait de voir cette ville se développer à ce point et devenir une destination touristique est désignée, je crois, comme étant la ville la plus spirituelle d'Inde.
C'est-à-dire le gouvernement a fait beaucoup de promotion de Varanasi comme l'endroit de mode, l'endroit où on doit aller. Alors il y a une espèce de tourisme religieux qui s'est développé. Avant il y avait les pèlerins qui venaient, maintenant c'est les touristes religieux qui viennent. Et alors on est en train d'adapter la ville pour eux, et il y a beaucoup de gens qui viennent, alors on doit élargir les rues. Et les gens aiment bien les lumières, les Indiens sont très comme ça, mais on met des lumières de couleur dans les grattes.
Et donc du coup ça change complètement ce côté moyenâgeux qu'on pouvait trouver avant dans les rues de Varanasi.
Oui, totalement. Totalement. C'est-à-dire on a voulu faire une ville moderne, smart city, c'est le smart city. Alors que Benares, la grande attraction, c'est que ce n'est pas une ville moderne. Si on veut une ville moderne, on va à New York, non, ou à Bombay.
L'histoire de Varanasi est une des plus anciennes villes au monde, avec une dimension aussi très particulière autour de la mort. Je veux bien qu'on parle un petit peu de l'histoire de Varanasi, en tout cas de ce que vous en connaissez. Parce que donc Varanasi, anciennement Benares, anciennement Kashi.
Oui, Benares, on dit qu'elle est la ville la plus ancienne du monde qui continue avec la même tradition. Non, par exemple, Rome, elle est aussi très ancienne, mais Rome aujourd'hui n'a rien à voir avec la Rome des Romains. Non, et la seule compétition, l'autre serait Jérusalem peut-être, qui est aussi très ancienne et qui a encore une importance religieuse très forte.
Et le lien à la mort ici à Benares, parce qu'on a quand même ces bûchers de crémation à Manikarnika notamment, où on voit ouvertement des corps défiler toute la journée.
Oui, c'est comme ça.
Brûlés sur une flamme qui brûle depuis plusieurs milliers d'années, hein, c'est ça, ce serait le même feu.
C'est ce qu'on dit, peut-être c'est éteint à un moment donné, on l'a immédiatement réallumé. Et maintenant, le gouvernement est en train de renouveler les crématoriums, et est en train de faire des grands édifices en pierre, et on ne voit plus les morts.
Pourquoi cacher quelque chose qui culturellement fait partie intégrante de l'Inde et de l'âme de l'Inde?
Voilà, parce que ça ne fait pas smart, c'est pas présentable au monde. Donc du coup, ils suivent la voie de l'Occident, qu'on cache la mort. Alors qu'ici, c'était toujours devant les yeux de tout le monde, et c'était une des grandes attractions, parce que là, on voit ça, on voit la réalité de la mort, et ça t'amène à penser sur la mort.
Vous êtes arrivé ici un peu hippie, donc sans doute athée sans religion, et aujourd'hui ?
Non, j'étais athée quand j'étais jeune, en partie à cause du lycée français de Madrid, la révolution française de Diderot, mais à un moment donné, cette vision s'est écroulée, et j'ai commencé à avoir des inquiétudes religieuses, et puis quand je suis venu ici, ça s'est rallumé.